sacerdoce et le sacrifice dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Après avoir eu trois instructions sur l'Ancien Testament, une première instruction sur les différents ordres qui accèdent au sacerdoce, et puis enfin la dernière fois une instruction un petit peu particulière qui portait sur le séminaire d'Argentine et sur la communauté du Brésil du Père Thomas d'Aquin. Nous retrouvons une instruction plus didactique qui va porter donc sur le prêtre. Alors c'est un sujet très vaste, je ne prétends pas épuiser ce sujet en une heure, et je voudrais tout simplement voir avec vous ce soir deux aspects bien différents d'ailleurs, le premier plus spéculatif, le deuxième plus pratique. Le premier va consister à expliquer un petit peu la question délicate du pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction, pour bien montrer dans quel sens les prêtres de la fraternité exercent leur apostolat aujourd'hui. Et la deuxième partie, plus pratique, eh bien, je vous raconterai un petit peu ce que c'est que le ministère du prêtre tel que je l'ai vécu depuis donc mon ordination. Alors bien sûr que chaque prêtre pourrait raconter sa propre expérience, qui serait bien différente, surtout dans la fraternité, puisque comme vous le savez, il y a des prêtres de la fraternité qui sont dans le monde entier déjà, donc en fonction du lieu de l'apostolat, mais il y a aussi des fonctions très diverses, puisqu'on peut exercer son ministère dans un prieuré, on peut aussi l'exercer dans une maison de retraite, on peut l'exercer dans une maison de retraite pour des retraitants, mais aussi pour des retraités. On peut l'exercer également dans les séminaires, puisque c'est là l'un des rôles les plus importants du prêtre, hein, et également dans les écoles. Donc en fonction du lieu de ministère, bien sûr que l'expérience est différente. Mais je voudrais un petit peu vous parler de l'apostolat dans les prieurés. Bien sûr que vous connaissez déjà une partie, je pense, de notre façon de vivre, mais je développerai un petit peu plus. D'une façon peut-être un peu subjective, mais enfin, c'est comme ça. Telle que je la vois. Alors, tout d'abord, on va commencer donc par la question un petit peu des rapports entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Donc, une question délicate et question très importante. Alors, je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. Donc la question, on pourrait la formuler de la façon suivante. Comment les prêtres de la fraternité Saint-Pie-X peuvent-ils donner des sacrements valides alors qu'ils n'ont pas la juridiction? Donc c'est la question que l'on se pose. Alors tout d'abord, avant de répondre directement à cette question, voyons un petit peu en quoi consiste le pouvoir d'ordre et en quoi consiste le pouvoir de juridiction. Le pouvoir d'ordre, c'est le pouvoir d'infuser la grâce, ou de donner, de rendre ou d'accroître la vie surnaturelle dans les âmes. En vertu du sacrement de l'ordre, le prêtre reçoit le pouvoir de sanctifier. Il reçoit en particulier un pouvoir sur le corps physique de notre Seigneur, à savoir le pouvoir de le faire descendre sur l'autel, lorsqu'il prononce les paroles de la consécration. Et donc, tout prêtre ordonné validement reçoit ce pouvoir et il le reçoit pour toujours. Maintenant, ensuite, qu'est-ce que c'est que le pouvoir de juridiction? Le pouvoir de juridiction, c'est le pouvoir que le prêtre reçoit non plus sur le corps physique de notre Seigneur, mais sur son corps mystique, c'est-à-dire sur son troupeau, sur ses fidèles. Or, ce pouvoir est reçu habituellement par la tête, c'est-à-dire par les membres de la hiérarchie de l'Église. Ainsi, le curé reçoit la juridiction sur sa paroisse de son évêque. L'évêque, à son tour, reçoit la juridiction sur son diocèse du pape. Par conséquent, l'Église étant hiérarchique, l'exercice du pouvoir d'ordre se fait habituellement en fonction du pouvoir de juridiction qui est conféré par l'autorité, qui est reçu par l'autorité. Par ailleurs, autre distinction qu'il est important de connaître pour comprendre le ministère que nous exerçons et pour ne pas tout mélanger. Dans la confection des sacrements, il faut distinguer la licéité et la validité. Lorsqu'un sacrement produit ses effets chez celui qui le reçoit, on dit qu'il est valide. Lorsque le sacrement ne produit pas ses effets chez celui qui le reçoit, on dit que le sacrement est nul. Par exemple, un mariage entre divorcés, c'est un mariage qui est nul. Si un prêtre bénit un tel mariage, l'homme et la femme ne sont pas mariés pour autant. Donc, sacrement qui est nul. Lorsqu'un sacrement est donné non seulement validement, mais maintenant selon toutes les normes de l'Église, on dit qu'il est licite. Lorsqu'il n'est pas donné selon les normes de l'Église, on dit qu'il est illicite, à moins qu'il soit invalide en fonction des cas. Par exemple, faire un mariage avec la bénédiction solennelle des époux pendant le carême, c'est illicite. Mais ce n'est pas invalide pour autant. Communier sans respecter la loi du jeûne, c'est illicite. Mais ce n'est pas invalide pour autant. Et par rapport au mariage, on distingue justement les empêchements prohibants des empêchements dirimants. Les empêchements dirimants sont les empêchements qui annulent le mariage. Les empêchements prohibants, ce sont les empêchements qui, sans annuler le mariage, font que le mariage, malgré tout, est illicite. Donc, il n'aurait pas dû être fait sans recourir à la levée de cet empêchement. Mais les époux sont bien mariés validement. Donc, leur mariage est bien reconnu comme tel. Alors, ensuite, nouvelle distinction à faire. Et qui est très importante, bien sûr, puisque c'est tout ce qui est, c'est cette distinction qui explique la position de la fraternité Saint-Pie-X. Il faut distinguer ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire même en temps normal, en dehors d'une période de crise, et ce qu'il est possible de faire en période de crise de l'Église. Ce qui peut être valable en période normale peut ne pas l'être en période de crise. Toute loi a ses exceptions. Par exemple, dans un autre domaine, il est évident qu'on dit que les enfants doivent obéir à leurs parents. Mais si le père pousse un enfant à avorter, en ce moment-là, l'enfant n'est pas tenu à obéir. Il est même au contraire tenu à désobéir. Donc la loi de l'obéissance, qui en soi est bonne, a ses exceptions. Et cela est vrai de toutes les lois. Alors, si l'on fait abstraction de la crise de l'Église, on doit reconnaître que pour conférer les sacrements licitement, il faut recevoir la juridiction de l'autorité ecclésiastique en place. Pour conférer validement les sacrements, la juridiction n'est pas nécessaire, sauf pour deux d'entre eux, le sacrement de pénitence et le mariage. Donc, en temps normal, un prêtre ne peut absoudre validement ni marier validement s'il n'a pas la juridiction. Alors, deuxième question qu'on se pose, dans la période de crise où nous sommes, qu'en est-il? Comment concilier la position de la fraternité Saint-Pie-X avec la lettre du droit et ensuite avec l'esprit du droit canon? Eh bien, l'Église, dans sa sagesse, a prévu que dans des cas particuliers, elle suppléerait elle-même au manque de juridiction en la communiquant directement au prêtre. Par exemple, en cas de danger de mort, mais également en dehors du cas de danger de mort, lorsque on est dans une situation délicate ou difficile. En particulier, les prêtres de Campos avaient bien montré l'analogie qu'il y avait entre le danger de mort temporel et le danger de mort spirituel. Et c'est vrai que depuis que je suis prêtre, c'est impressionnant d'entendre les confidences des fidèles nous disant les conseils que des prêtres avaient pu leur donner en confession. Dès lors, Les fidèles, s'estimant en danger de mort spirituelle en allant trouver d'autres prêtres, recourent à nous. Et c'est en venant vers nous qu'ils nous donnent la possibilité de conférer validement et licitement les sacrements. De même pour le mariage, il est prévu dans le droit canon qu'il est possible de se marier devant un prêtre qui n'a pas la juridiction, en cas de difficulté à trouver un prêtre muni de la juridiction, pourvu que l'on pense que cette situation durera plus d'un mois. Et on peut penser que la crise de l'Église durera encore un petit peu plus d'un mois. Toujours recourant encore au droit, autre élément qu'il est important de connaître, c'est le cas du prêtre qui aurait un doute positif et probable d'avoir la juridiction. Donc un prêtre qui ne sait pas très bien s'il a la juridiction ou qu'il ne l'a pas. Malgré tout, il a quand même un doute positif de l'avoir. Eh bien, dans ce cas-là, l'Église supplée nécessairement au manque de juridiction si le prêtre, en l'occurrence, n'avait pas la juridiction. Donc, en cas de doute positif et probable, l'Église supplée au manque de juridiction. Et donc, lui donne nécessairement la juridiction, si bien qu'elle lève le doute. Par conséquent, même si au départ, nous n'avons pas la certitude d'avoir la juridiction, dans la mesure où nous avons au moins un doute positif de l'avoir, et nous l'avons certainement, nous savons que l'Église nous le donne. C'est dans le canon 209 et le nouveau code, le canon 144. Donc voilà les canons de l'ancien et du nouveau code, donc selon la lettre du droit, qui expliquent notre attitude, notre comportement dans la crise de l'Église. Alors maintenant, à la lettre du droit va s'ajouter encore l'esprit du droit. Il est certain qu'il ne doit pas y avoir en soi incompatibilité entre la lettre et l'esprit du droit, mais lorsqu'il y a une difficulté à interpréter la lettre du droit, on peut recourir à l'esprit du législateur. Or, en l'occurrence, et cela est vrai de toutes les lois ecclésiastiques, le législateur n'a pas eu en vue d'établir une loi qui soit trop dure à suivre. Ainsi, selon le droit, les lois qu'on appelle onéreuses, donc les lois qui apportent une certaine charge, doivent être interprétées de façon restrictive. Tout ce qui est peine, censure, ne doit pas être interprété de façon large, mais au contraire de façon restrictive. C'est-à-dire qu'on a tendance à diminuer les peines. Et au contraire, il est prévu, selon le canon 20, que les faveurs sont à interpréter d'une façon large. Donc lorsqu'il y a une faveur qui est accordée, on doit l'interpréter dans un sens large. Ça, c'est selon l'esprit du droit. Et enfin, autre moyen d'interpréter la lettre du droit, c'est de recourir aux principes généraux du droit. Ainsi, par exemple, un des principes du droit, c'est sacramenta propter homines, ça veut dire les sacrements sont pour les hommes. Par conséquent, les fidèles ont un droit strict à recevoir les vrais sacrements. Or, très souvent aujourd'hui, il peut y avoir, et il y a, des doutes sur la validité des sacrements qui sont donnés par des prêtres modernes. Donc, en venant nous voir, c'est vous qui nous donnez le pouvoir de vous communiquer les sacrements, parce que vous avez un droit strict à recevoir les vrais sacrements. Et qu'en allant ailleurs, vous avez un doute de les recevoir convenablement. Et enfin, autre grand principe qui est rappelé par le nouveau code, c'est le dernier canon. Ça aurait dû être le premier, mais enfin, c'est déjà bien qu'il soit marqué. C'est le canon, donc, dans le nouveau code 1752. Prima lex salus animarum. La première loi, c'est le salut des âmes. Donc, il est évident que la première loi étant le salut des âmes, si la lettre de la loi s'opposerait au salut de vos âmes, eh bien, le salut de vos âmes prime, c'est évident. Et c'est là que, justement, que c'est très important de se rendre compte que la crise de l'Église, c'est une crise qui touche au cœur de la foi. Si la crise de l'Église était simplement une crise qui serait relativement superficielle, il y aurait eu des adaptations, mais qui auraient pu être à la limite comprise par certains et pas par d'autres, en ce moment-là, ça n'aurait pas pu légitimer notre position. Mais dans la mesure où la crise de l'Église touche vraiment au cœur de notre foi, et à travers la messe et à travers la doctrine, en particulier par la liberté religieuse et le faux écuménisme, en ce moment-là, eh bien, vu la profondeur de la crise, il est évident que le bon Dieu supplée par, à la défaillance de la hiérarchie. Donc c'est très important de bien comprendre que ne se constitue pas en Église parallèle, mais que notre rôle est simplement de suppléer aux défaillances de la hiérarchie. On reconnaît la hiérarchie officielle, mais on cherche uniquement à suppléer à leur défaillance. Si vous voulez que je vous donne par exemple des cas encore récents, à l'hôpital Léon Bérard, il y a un mois, je suis allé voir une personne qui catholique, non pratiquante, qui donc avait un cancer. Le prêtre, un cancer qui est bien avancé, le prêtre est passé la voir et lui a proposé de lui donner la communion. Et donc elle a communié, mais il ne lui a pas demandé de se confesser. C'était une, alors qu'elle n'est pas, elle n'était pas pratiquante. Et il ne lui a pas proposé non plus les derniers sacrements, alors que son cancer est presque généralisé. Donc c'est un cas que je vous présente parce que c'est tout récent, il n'y a même pas un mois, mais c'est le nombre de cas comme ça, c'est malheureusement monnaie courante. Donc moi-même, quand je suis allé la confesser, lui donner le sacrement des malades, mon but, c'est tout simplement de suppléer à la défaillance de la hiérarchie. Et lorsque vous venez nous voir, c'est exactement dans le même but. J'aurais bien aimé qu'il remplisse son rôle de prêtre, bien sûr. Et on aimerait bien que tous les prêtres remplissent leur rôle. On serait d'ailleurs plus disponible pour vous. Et en ce moment-là, on serait reconnu par la hiérarchie, donc il n'y a pas de problème de juridiction. Donc la première loi à considérer étant le salut des âmes, l'Église nous donne tous les moyens pour pouvoir assurer notre mission, ce qui se comprend. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la crise de l'Église, Mgr Lefebvre a tenu à toujours se fonder non seulement sur une idée qui serait purement subjective, mais sur toujours le droit canon, et même non seulement l'esprit du droit, mais même selon la lettre du droit. Et il est vrai que selon la lettre du droit, à la fois pour le sacrement de pénitence et pour le mariage, je ne vous ai pas donné tous les canons, j'aurais pu vous les donner, dans le nouveau droit, ils ont élargi le pouvoir de juridiction et le pouvoir de suppléance de juridiction. Je ne pense pas qu'ils l'aient fait en pensant à nous, mais en tout cas, ils l'ont fait. Et donc, on peut très bien en user. Alors, en conclusion, on peut dire que les prêtres de la fraternité Saint-Pie-X confèrent aux fidèles les sacrements, non seulement validement, mais licitement, en vertu de la lettre et de l'esprit du droit canon. Ceux qui ne reconnaissent pas ce pouvoir sont soit de mauvaise foi, soit aveugles sur la gravité de la crise de l'Église que nous traversons. Par ailleurs, autre argument ad hominem, mais qui, à mon avis, est quand même intéressant, il faut noter que la situation de la fraternité, à cet égard, est une situation qui ne date pas de 88, comme certains auraient pu le penser, mais de 76, où Mgr Lefebvre avait reçu l'interdiction de poursuivre ses ordinations. Le problème qui sépare Rome de la fraternité est un problème doctrinal. Rome n'arrivant pas à résoudre le problème doctrinal, l'a transféré dans le domaine disciplinaire, en faisant Mgr Lefebvre un désobéissant. Et comme le rappelait très bien Mgr Lefebvre, l'obéissance est au service de la foi. Par conséquent, si c'est la foi qui est en jeu, et que les ministres nous poussent à quelque chose qui est en opposition avec notre foi, nous ne sommes plus liés par le devoir d'obéissance. Et cela est intéressant parce que ça signifie en particulier que les prêtres qui nous ont quittés en 1988 à l'occasion des sacres n'avaient pas plus de juridiction que nous entre 76 et 88. Or, je n'ai jamais entendu l'un d'entre eux affirmer qu'il ait donné des sacrements invalides avant 88 ans. C'est donc faire des preuves de mauvaise foi que de dire qu'aujourd'hui, nos sacrements deviennent invalides. Alors qu'autrefois, quand eux, ils étaient dans la même situation, leurs sacrements étaient valides. Il y a quelque chose qui cloche dans le raisonnement. Et il y a une interview en particulier de M. l'abbé Lafargue, par exemple, dans le credo de juillet-août 87, où il expliquait justement, dans cette revue, que nos sacrements sont tout à fait valides et licites. Il disait, mieux vaut recourir à la fraternité Saint-Pie-X et recevoir des sacrements valides et licites que de recevoir dans l'Église moderne des sacrements qui sont douteux. Alors ça, c'était pour la première partie, donc la partie qui concernait le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Alors maintenant, deuxième partie, je voudrais, à travers donc mon expérience, vous parler un petit peu des joies et des peines du prêtre dans le ministère. Donc c'est totalement un autre registre. On passe du spéculatif à la pratique. Saint Paul décrit un petit peu la croix du prêtre dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 19 à 33, chapitre 12, versets de 1 à 9, qu'on lit le dimanche de la sexagésime. Il disait, souvent par les routes, quand on voit le nombre de kilomètres qui sont faits par les prêtres de la fraternité aujourd'hui, on peut encore le redire. Il parle ensuite des dangers, dangers venant de mon peuple. Aujourd'hui, on peut très bien transposer, dangers venant des persécutions des membres de la part des membres de l'Église officielle. Dangers de la ville, dit-il. Aujourd'hui, les villes sont pour les prêtres aussi occasion de danger, à la fois par la pornographie et les tenues indécentes qu'on voit dans les rues, mais également en raison de l'esprit du monde, qu'on retrouve beaucoup plus dans les villes que dans les campagnes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Mgr Lefebvre voulait que les prêtres soient plutôt en dehors des villes. Lyon est une exception qui confirme la règle. Tant mieux pour vous, d'un côté. Mais c'est vrai que c'est pas... Il y a des avantages, certains, mais il n'y a pas que des avantages. Danger du désert, disait-il. Aujourd'hui, on peut penser également au danger de solitude chez certains confrères qui sont seuls. D'où le souci toujours de nos supérieurs de grouper les prêtres, puisque nous sommes une société de vie commune. Et dans une société de vie commune, eh bien, on est censé mener une vie en commun. Et pour mener une vie en commun, il faut au moins être deux. On a toujours notre ange gardien avec nous, bien sûr, pour nous tenir compagnie. Mais c'est pas forcément dans ce sens-là que nos statuts ont été écrits. Ensuite, danger des faux frères. Alors ici, je voudrais vous raconter une anecdote. Je vais regarder si le fidèle qui est avec moi en ce moment-là était là, mais non, il n'est pas là. Il serait rappelé ce bon souvenir. Peut-être certains d'entre vous, je leur ai raconté cette histoire. Un jour, en mon absence, un homme téléphone en se présentant comme prêtre et se disant persécuté par le curé du village, donc ici, dans la région de Lyon, en raison de sa fidélité à la tradition. Alors, je n'étais pas là en ce moment-là, et quelques jours après, j'arrive, alors on me dit, voilà, il y a un prêtre près de Lyon qui dit la messe traditionnelle, et il est persécuté par son curé. Il aimerait bien que vous ayez le voir. Alors, je l'appelle. Alors, au début, ça se passe très bien. Je décide même d'aller manger chez lui le lendemain. Enfin, c'est plutôt lui qui m'invite chez lui le lendemain. Et en ce moment-là, je lui demande, après... un peu par curiosité et puis en même temps aussi pour savoir un peu à qui j'avais affaire. Depuis quand il est prêtre? Il me dit, je suis prêtre depuis 6 ans. Tiens, ça fait 2 ou 3 ans de ça. Depuis 6 ans. Alors ça me paraissait curieux parce qu'il avait il avait l'air d'être, à savoir moi, d'être un prêtre d'un âge. Alors en ce moment-là, je lui dis, depuis quand vous dites la messe traditionnelle? Il me répond, depuis 9 ans. Alors déjà, je me suis dit, là il y a un problème. Après, je lui demande, mais depuis quand est-ce que vous avez été ordonné prêtre? Il me répond, « Oh, vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas l'avoir connu. » Alors, en ce moment-là, j'ai raccroché. Et puis, je me dis, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Alors, 5 minutes après, j'ai repris le téléphone en lui disant que finalement, le lendemain, je ne pourrais pas manger chez lui. Mais que, malgré tout, j'allais quand même lui rendre visite. Hein. Alors, comme je ne savais pas à qui j'avais affaire exactement, j'ai demandé à un fidèle de m'accompagner. Donc, on est allé à deux chez lui. Il était au téléphone, au moment où on arrivait, en soutane, avec un béret sur la tête. Donc, il nous fait rentrer. Et il dit à la personne avec qui il était au téléphone, donc j'étais avec un fidèle du prieuré, « J'ai deux prêtres de Mgr Lefebvre qui sont ici. » C'était moi le fidèle, non? Et après, il continue en disant, « Excuse-moi, je suis donc pressé, je suis obligé d'abréger la conversation, alors je te donne ma bénédiction au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. » De la bénédiction par téléphone. Alors ensuite, il nous fait nous asseoir, et on lui pose un petit peu quelques questions. Et à peu près, les réponses sont à peu près les mêmes que du même style que la veille. Alors, dans la conversation, il nous parle de persécution qu'il avait endurée de la part de son curé. Il nous donne quelques exemples. Il nous dit, un jour, le prêtre du village va voir une malade et lui refuse l'absolution parce qu'elle vivait en concubinage. Alors, il dit, moi, je suis passé par derrière. Et heureusement, comme ça, j'ai pu lui dire, à tout péché, miséricorde. Oh, mon Dieu. Alors ensuite, il nous montre l'endroit où il célébrait la messe. Il y avait un hôtel près de la télévision. Donc l'hôtel où il disait la messe, donc c'était un hôtel comme celui-ci, avec le tabernacle, la lampe du sanctuaire, tout allumé. Et juste à côté, la télévision. Alors pour terminer, donc nous, déjà au bout d'un quart d'heure, on a déjà vu avec qui on avait affaire. Donc moi, je me suis dit, il faut que je rentre maintenant rapidement. Mais il nous propose d'aller voir son meilleur paroissien. Alors moi, je ne voulais pas trop y aller, mais le fidèle me dit, si, on va y aller. Alors nous voilà partis chez Jeannot. Son fidèle s'appelait Jeannot. Donc on est partis chez Jeannot. Donc on a dû traverser le village ensemble, tous les trois. Et voilà qu'on arrive chez Jeannot. Alors un homme hirsute, mal rasé. Après 10 minutes où le prêtre, le soi-disant prêtre, donc c'est lui qui parlait tout seul, voilà Jeannot qui commence à ouvrir la bouche, en disant, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ah, moi je vais vous dire un truc, je suis croyant. Ah, ça oui, moi je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Le meilleur paroissien qui n'est pas pratiquant. Alors pour s'en sortir, il lui dit, mais si, rappelle-toi Jeannot, tous les jours je viens de porter la communion. Authentique. Je ne rajoute rien. Hein. Alors, face à ça, finalement, on réfléchit tous les deux, et puis à ce qu'on allait faire, et je décide quand même d'aller à la gendarmerie pour essayer de prévenir les gendarmes qu'il y avait un soi-disant prêtre qui était là, et puis ça me paraissait curieux, et puis pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc je suis accueilli poliment par les gendarmes. Et puis, sur les gendarmes, il y en a un qui me dit, oui, mais je me demande s'il n'était pas frère autrefois, etc. Mais après, il ne m'a pas dit plus. Et je sentais qu'ils étaient quand même assez réservés. Je rentre au prieuré. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone. Allô ? Voilà le fameux prêtre qui retéléphone. Il me dit, vous êtes un Judas ? Ah bon, je suis un Judas ? Vous êtes allé à la gendarmerie hier soir et vous m'avez vendu. On dit, je suis désolé, mais dans les questions que je vous ai posées, vous m'avez répondu que vous étiez prêtre, soi-disant, depuis 6 ans. Ça fait 9 ans que vous vivez de la messe traditionnelle. Je ne peux pas savoir qui vous a ordonné prêtre parce que je suis trop jeune. Donc il y a quelque chose qui cloche. Mais heureusement, il a terminé en disant, à tout péché, miséricorde. Donc ça fait partie des aventures que l'on peut rencontrer dans le ministère. Donc il faut avoir du bon sens, parce que, en l'occurrence, au départ, les fidèles étaient qui m'en avaient parlé, parce que c'était un fidèle qui avait décroché le téléphone ici, Ce fidèle était tout content. Il m'a dit, ah, il y a un prêtre qui dit la messe traditionnelle, vous allez pouvoir faire du ministère ensemble. Heureusement que j'ai mené ma petite enquête avant de commencer à travailler avec lui. Enfin, je pense que je me serais quand même vite rendu compte qu'il y avait un problème. Donc, après le danger des faux frères, en conclusion, quand même, je pense en l'occurrence que probablement il avait dû être frère. Et toute sa vie, il a dû rêver d'être prêtre. Il n'a jamais pu accéder au sacerdoce pour mille et une raisons. Et à la fin de sa vie, ben, il joue au prêtre. Et il y a quelques personnes qui se laissent prendre. Et donc il doit dire la messe chez lui pour quelques personnes. Et justement, comme je trouvais que c'était quand même grave, j'avais voulu alerter la gendarmerie, j'allais pas voir le curé, parce que je savais déjà que le curé était au courant, pour essayer de mettre un coup en garde, quoi. En soutane et tout, hein, bien. Sa consolation, c'était sa pipe, il nous a montré sa pipe. Revenons à saint Paul, donc. Après le danger des faux frères, il parle du labeur et des peines. Alors ici, dans la croix du prêtre, rentre en ligne de compte, peut-être pas pour tous les prêtres, mais pour certains en tout cas, tout d'abord toutes les tâches administratives. Le courrier à répondre, les travaux dont il faut s'occuper, au hasard, et puis toute la maison qu'il faut tenir. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, peut-être que les fidèles ne se rendent pas toujours compte, du temps que l'on est obligé de passer pour de simples questions matérielles. Nous-mêmes, on aurait envie de s'occuper que du spirituel, mais de fait, on est bien obligé de passer aussi par ces questions matérielles. Ensuite, entre croix du prêtre, eh bien, ce sont les gens qui ne comprennent pas toujours la position de la fraternité dans la crise de l'Église. Il y a également les gens déséquilibrés qui veulent de l'aide et auprès desquels il faut souvent passer beaucoup de temps. Il y a les clochards aussi qui nous occupent, mais eux, en général, on les connaît bien, ça fait partie de la vie. Et puis il y a aussi les mystico-dingos. Alors je vous donnerai un exemple. Un jour, je reçois un coup de téléphone. Monsieur l'abbé, on a voulu vous empoisonner. Ah bon, on a voulu vous empoisonner, mais enfin, je me sens très bien. Si, je vous dis, on a voulu vous empoisonner et vous allez mourir. Ah bon? Ça, je sais bien que je vais mourir, mais enfin, peut-être pas tout de suite. Si, monsieur l'abbé, je vous dis. Alors, je devais prendre de l'eau miraculeuse et puis faire une prière pour retrouver la santé. Enfin, depuis, je suis quand même toujours là. Donc, ça fait partie aussi de l'apostolat que nous avons. Un apostolat un petit peu particulier, d'une personne que je connaissais. Donc ce n'était pas une personne qui a voulu nous faire un coup. Ensuite, encore, en parlant de la croix du prêtre, on pense à toutes les chapelles que nous desservons, parce que bien sûr, chaque chapelle voit toujours ce qu'il y a à faire au sein de la chapelle, mais il ne faut pas oublier que les prêtres ne s'occupent pas que d'une seule chapelle. Nous avons plusieurs chapelles à nous occuper, et chacune d'entre elles a ses besoins. Donc, c'est pas toujours facile d'être disponible pour tout le monde. On pense aussi à toutes les âmes qui nous demandent de l'aide. Il y a bien sûr les fidèles traditionnels qui nous demandent de l'aide, mais il y a également beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout dans la tradition, et qui parfois même ne sont pas croyants, et qu'il faut quand même aussi essayer d'éclairer, dans la mesure où on le peut. On pense à la croix du prêtre également. En parlant de la croix du prêtre, on pense aussi à toutes les âmes qui n'avancent peut-être pas toujours aussi vite aussi qu'on le souhaiterait. Et puis surtout, comme je le disais, aux besoins qui sont souvent plus étendus que nos propres forces. Très souvent, on nous demande, même depuis que je suis à Lyon, on a voulu qu'on ouvre un centre à Vienne, après on voulait qu'on ouvre un centre à Valence, on a voulu aussi qu'on ouvre une école, d'ailleurs on a essayé de l'ouvrir, finalement on n'a pas pu. Mais c'est sûr qu'il y a vraiment un besoin qui est assez impressionnant. Si on était trois fois plus de prêtres, on serait bien occupé, hein, ça c'est sûr. Mais seulement il faut tenir, parce qu'il y a plusieurs prêtres qui ont craqué déjà aussi, physiquement ou moralement. Donc on a aussi des forces qui sont limitées, donc il faut en tenir compte. Et quand on pense à toutes les âmes qui se perdent, c'est sûr que dans une grande ville comme Lyon, c'est assez impressionnant. Après, autre croix du prêtre sont les divisions qui apparaissent parfois même à l'intérieur de nos chapelles. Donc ça, nous y reviendrons. Ensuite, saint Paul dit « Qui est faible sans que je sois faible ? Qui trébuche sans que je sois sur les charbons ?» Alors on pense aux souffrances physiques, morales et spirituelles des fidèles que nous partageons. Plus on avance dans le ministère, et puis plus justement se crée, je pense, entre vous et nous, un lien de paternité. Et par conséquent, à mesure que croît la charité, croît également la capacité de souffrir. Plus on connaît une personne, et plus on l'apprécie, et plus on souffre de la voir souffrir. Mais comme toujours, la souffrance est aussi tempérée par l'espérance et par le progrès spirituel aussi que l'on voit chez ces âmes qui souffrent, souvent au moins. Et c'est pour nous un très grand réconfort. Autre souffrance du prêtre, eh bien, ce sont les fidèles qui nous quittent, qui se lassent de la crise de l'Église ou qui perdent patience, ou alors qui cherchent à avoir les avantages de la tradition sans en avoir les inconvénients. Avoir la bonne messe sans pour autant avoir les inconvénients d'une mauvaise réputation, sans vouloir se couper de ses amis aussi, puisque quand on fait le choix de la tradition, souvent il y a des portes qui se ferment. Saint Paul parle encore de la croix du prêtre lorsqu'il dénonce des divisions parmi les fidèles. « Il m'a été rapporté à votre sujet, dit Saint Paul à ses fidèles, aux Corinthiens, qu'il y a des discordes parmi vous. Chacun de vous dit « Moi je suis pour Paul, moi je suis pour Céphas, moi pour le Christ. » Est-ce que le Christ est partagé ? Et là, je vous signale que ce que je vous dis ce soir était préparé il y a un an, un peu plus d'un an même, donc ça n'a rien à voir, je n'ai pas préparé en raison des événements passés de ces derniers mois, puisque ça a été écrit auparavant. Ce n'est pas non plus parce que je suis prophète, mais c'est tout simplement parce que c'est les mêmes histoires qu'on retrouve un petit peu tout le temps. Pas toujours au même endroit, grâce à Dieu, mais la nature humaine étant la même partout, ce qu'on trouve un jour à un endroit, on le retrouve ailleurs, à un autre endroit, à un autre moment. On constate en effet que le démon trouve toujours un malin plaisir à semer la zizanie. Donc c'est à nous, prêtres, d'être prudents, mais c'est aussi à vous, fidèles, d'être prudents, pour à la fois éviter ces divisions et puis pour ensuite essayer de les enrayer. Mais ce n'est pas toujours facile. Comme je le disais l'autre jour dans le sermon, là où on reconnaît la main du démon, c'est toujours dans la disproportion qu'il y a entre la cause et l'effet. Et c'est au point que parfois on se dit, mais c'est des adultes que l'on a devant nous, c'est des petits-enfants, parce que ça paraît tellement gros comme dans la façon de réagir entre le point de départ et puis le développement que ça peut prendre, qu'on est interloqué. Mais de fait, il y a le démon qui est par derrière et qui fait que les gens sont aveugles et ne s'en rendent pas bien compte. Alors souvent, après, quand la passion se mêle, c'est très difficile de voir clair et de revenir à la raison. Chacun veut rester sur ses positions. Alors, quelques règles que je donnais donc il y a un petit peu plus d'un an, je rappelle. Ne jamais s'occuper de ceux qui ne nous regardent pas. Parce qu'en fait, cette instruction avait été faite dans la deuxième partie pour des séminaristes. Non, parce qu'on m'avait demandé de prêcher la retraite à Écône l'année dernière. Donc c'est des choses que je leur disais il y a un an. Mais ce que je leur disais à eux est valable aussi pour vous, je pense. Donc ne jamais s'occuper de ceux qui ne nous regardent pas. Je ne connaissais pas encore l'histoire d'Abba Moïse, mais comme je l'ai retrouvée depuis, j'ai eu l'occasion de vous le dire. Comment peut-on pécher avec le nez en le mettant dans les affaires des autres? Donc que chacun se cantonne à bien gérer le domaine propre qui lui est départi et pour lequel il a grâce d'État. Ensuite, deuxième point, à mon avis important, ne pas juger indifférent sans avoir tous les éléments. Je connais un confrère, donc prêtre, qui s'est laissé complètement avoir dans une affaire il y a quelques années, parce que justement il n'avait entendu qu'un des deux parties. Et tout de suite il a pris position avant d'avoir écouté les deux parties. Alors depuis, grâce à Dieu, il est revenu à de meilleurs sentiments, mais en attendant, eh bien, il y a eu des dégâts de fait. Ensuite, dans l'apostolat, et cela est vrai aussi pour vous, puisque j'espère que vous avez tous l'esprit missionnaire, c'est de savoir être réaliste. Il faut savoir prendre les âmes où elles sont et les faire grandir peu à peu en fonction de leurs possibilités. Il y a toujours deux écueils à éviter dans l'apostolat. Le premier écueil, c'est d'être idéaliste et se dire que les choses devraient être comme ceci ou comme cela. Par conséquent, on va essayer de faire plier le réel à son idée, en oubliant qu'en transposant les principes qui sont universels dans la situation concrète qui, elle, est particulière, on doit tenir compte de toutes les circonstances. Si on agit autrement, on fait preuve d'imprudence. Et là aussi, il y a des conséquences qui sont parfois désastreuses. Et ensuite, l'autre écueil à éviter, c'est le piège du libéralisme, qui consiste à prendre les gens où ils sont, mais en oubliant de les faire progresser, en oubliant le but à atteindre, en oubliant les principes qui sont immuables. Donc d'un certain côté, on voit les principes, de l'autre côté, on a des contacts humains faciles, donc on voit la réalité concrète, mais on oublie d'unir les deux. On doit à la fois être ferme sur les principes, comme disait très bien Saint Pidis, mais ensuite, dans l'application de ces principes, on doit tenir compte de toutes les circonstances. Et c'est là, justement, qu'il faut faire appel à la vertu de prudence et au don de conseil. Et ici, on constate que les esprits qu'on pourrait appeler univoques ont souvent du mal dans l'apostolat à résoudre les problèmes autrement que par sic et non. Vous avez des personnes qui vont toujours régler les problèmes d'une façon finalement mathématique, tout blanc, tout noir, alors que dans les problèmes humains, ce n'est pas si simple que cela. Alors voici ce qu'écrivait le père de Poulpiquet dans la Revue des Jeunes en 1923. Pour essayer de décrire un petit peu ces deux formes d'esprit. Il y a une forme d'esprit, on dit qu'il y a l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse, qu'on retrouve un petit peu ici. Et ici, du point de vue philosophique, on appelle ça l'esprit univoque, pour celui qui aura l'esprit de géométrie, en quelque sorte. Et l'esprit de finesse, ce serait l'esprit analogique, analogiste. Alors voici comment se caractérise l'esprit univoque, selon ce que disait le père de Poulpiquet. La caractéristique de l'esprit univoque sera la rigidité intellectuelle, l'espèce d'identité qu'il va établir entre toutes ses conceptions et l'égalité d'importance qu'il leur accordera. Il semble que la vérité ne puisse descendre en lui qu'en passant sous la toise, en se distribuant dans des compartiments très étroits et tous pareils. À cause de ce manque absolu de souplesse intellectuelle, les reliefs des choses et leur diversité s'effacent, finissent par revêtir à ses yeux ces dimensions symétriques et rectilignes, où se complaît son esprit de géométrie niveleur et simplificateur à l'excès. Aristote parle de ces gens qui ne peuvent rien admettre si on ne leur démontre par les procédés en usage dans les sciences mathématiques. C'est là un beau cas d'univocité. Ainsi, l'esprit univoque fusionnera en un bloc homogène et infrangible l'accidentel et l'essentiel, le provisoire et l'éternel, le contingent et le nécessaire, le probable et le certain, l'humain et le divin. Essayez maintenant de déranger l'équilibre massif de ces conceptions, vous n'y réussirez pas. Vous courrez même la chance de faire tout crouler, car l'univoque est de plus un extrémiste et le partisan fanatique du système du tout ou rien. On nous citait le cas, il n'y a pas très longtemps, d'un catholique pratiquant qui déclarait sans embâche que sa foi était conditionnée par l'universalité du déluge. Donc je crois que c'est très intéressant comme analyse, puisqu'elle est vraie, et ce qu'il écrivait en 1926, on le retrouve encore aujourd'hui. Alors, l'univoque va toujours traiter l'analogiste de libéral, parce qu'il ne voit pas que, en réalité, comme va très bien l'expliquer ici, qu'il y a une différence entre être proportionnaliste et relativiste. L'analogiste, lui, est en matière de vérité non pas un relativiste, mais un proportionnaliste, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le relativiste, donc ce serait le libéral en l'occurrence, est un sceptique. Pour lui, il n'y a pas d'absolu. Toute vérité est contingente. Elle change au gré des individus et des époques. Le proportionnaliste est dogmatique et objectiviste, mais il a assez de malléabilité et d'ouverture d'esprit pour savoir que le rapport de notre intelligence au réel qui constitue la vérité varie incessamment suivant la nature des choses. Ici, nous ne trouvons plus cette raideur mentale de l'univoque, impuissante à se plier à la profonde diversité des êtres et des idées, mais une souplesse apte à saisir le sens des valeurs et à se transposer avec elles. L'analogiste possède cette tête bien faite que Montaigne préférait aux têtes bien remplies. Il saura donc, au point de vue religieux, introduire dans les divers éléments qui intègrent sa foi cette hiérarchie que l'univoque ne parvenait pas à établir. C'est peut-être un peu difficile, c'est de la philosophie, mais c'est une analyse qui est très juste et qu'on rencontre bien dans le ministère. Alors pour arriver à pallier à ce défaut, je pense qu'il faut savoir tout simplement imiter notre Seigneur, voir un petit peu comment notre Seigneur a agi vis-à-vis de ses contemporains, voir comment il a parlé avec eux, comment il a mangé avec eux, comment il leur a pardonné, comment aussi il les a réprimandés quand il le fallait. Et par exemple, il y a deux discours magnifiques, le discours à Nicodème et le discours à le dialogue avec la Samaritaine, qui indiquent tout à fait la manière dont nous devons agir vis-à-vis des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. Si on commence à arriver avec le bulldozer dès le départ, en ce moment-là, il n'y aura pas de... ça ne pourrait être que négatif. On constate au contraire que notre Seigneur, que ce soit avec Nicodème ou avec la Samaritaine, il a commencé par capter leur bienveillance. Quand il voit la Samaritaine, il dit « Donne-moi à boire ». Mais ensuite, à la fin, il va lui dire « Va chercher ton mari ». Donc il va mettre le doigt sur la plaie. Donc le sectaire aurait été celui qui aurait refusé de dialoguer en disant « Puisque n'importe comment, elle vit comme cela, elle n'est pas digne que je lui adresse la parole ». Et le libéral, ça aurait été celui qui serait contenté de prendre un pot avec elle. Alors que notre Seigneur a commencé par lui donner à lui demander à boire, mais ensuite, après, il est allé jusqu'au bout, à savoir jusqu'à mettre le doigt sur la plaie. Et ça montre un petit peu l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. Ce qui n'est pas forcément évident. Ensuite, après la croix du prêtre, voyons juste un mot sur les joies du prêtre. Il y a tout d'abord la joie de monter à l'autel. C'est sûr que pour le prêtre, la plus grande joie, c'est de pouvoir célébrer chaque jour le Saint-Sacrifice de la messe. Il y a ensuite la joie de la vie commune. On sent bien que l'une des souffrances les plus pénibles pour certains prêtres de campagne autrefois, c'était justement cette solitude, le fait d'être seul. Alors le fait d'être à plusieurs, c'est pour nous un grand soutien. Et c'est pour cela que Mgr Lefebvre voulait que non seulement on partage la vie commune matériellement, mais aussi et surtout spirituellement, d'où les offices que nous avons en commun. Le matin, nous avons l'office de prime et l'oraison, qui se fait en commun. Ensuite, à midi, nous avons l'office de sexte, et le soir, l'office des complices. Ensuite, il y a, dans les difficultés aussi, la joie de se savoir épauler. C'est sûr que c'est un grand soutien dans les difficultés, de pouvoir se confier, parce que un prêtre seul, c'est un danger pour lui, parce qu'il aurait tendance à trop parler à certains fidèles. Et le sacrement de pénitence aussi, qui est très beau, bien sûr. Le premier Noël à Lyon, j'avais été... bien sûr que c'est... on ne peut pas tout dire, mais je peux vous raconter quand même certaines choses. Le premier Noël à Lyon, je récitais mon bréviaire au bord du Rhône, puisque j'allais souvent réciter mon bréviaire au bord du Rhône, le soir, vers 10h, 11h. Et puis je reviens au prieuré, il y a un monsieur qui m'accoste et qui me demande « À quelle heure est la messe de minuit chez vous ?»« Ah, la messe de minuit est à minuit, monsieur. »« Ah bon, très bien. »« Ah, il y a une chapelle ici, donc ?» Il dit « Oui, oui, il y a une chapelle. »« Vous voulez rentrer dans la chapelle ?»« Oh, ben pourquoi pas. » Il rentre dans la chapelle, et puis au moment où il rentre dans la chapelle, il prend l'eau bénite, il fait une génuflexion, et il me dit « Je voudrais me confesser. » Je dis « Ben, si vous voulez. » Oui, mais seulement, ça fait très longtemps que je ne suis pas confessé. Justement, il n'y a pas de problème. Et puis, finalement, donc, en rentrant dans la chapelle, ce n'était pas du tout son intention, il passait juste par là, il a eu l'inspiration du Saint-Esprit de se confesser. Et après ça, je ne l'avais pas revu pendant un certain temps. Et, ou peut-être que je ne l'ai pas reconnu, peut-être qu'il venait, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelques mois après, au moment où je confessais, c'était aux alentours de Pâques, et il s'est présenté, mais vous rappelez, c'est moi qui étais venu à Noël pour se rappeler. Alors ça c'est beau. Alors, il y a plusieurs cas comme ça. D'autres histoires qui sont plus amusantes, même dans le sacrement de pénitence. Un jour, une jeune fille, c'était encore rue de Marseille, elle attendait le bus, et puis donc, comme il y avait le prieuré était près de l'arrêt de bus, elle sonne, parce qu'elle voit qu'il y avait écrit qu'il y avait des confessions possibles, mais ces confessions, donc, très fardées, grosses boucles d'oreilles, enfin, apparemment, c'était pas la type même de la tradie, quoi. Mais bon, je veux me confesser. Très bien. Mais je ne sais pas comment elle avait l'habitude de se confesser d'habitude, comment elle se confessait habituellement. Mais je rentre au confessionnal, donc je vous la grille, puis j'entends une voix qui venait d'en haut. Alors je dis, ça, c'est bizarre. Alors je sors du confessionnal, en fait elle s'était assise à l'endroit de l'accoudoir. Alors j'ai dû lui expliquer la démarche, en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut se retourner, et puis c'est... On voit un petit peu de tout. Une autre fois, je confesse un petit enfant. Il avait peut-être 7-8 ans. Et puis, il dit ses fautes. Et une fois qu'il a terminé ses fautes, il se tourne vers moi et puis il dit « Et toi ?» Il pensait que c'est chacun son tour. Alors, j'ai expliqué que c'était pas comme ça. Il avait... des histoires qui sont parfois amusantes. Et puis, une autre fois, alors, ça c'est autre chose, c'était plus sérieux. On m'appelle pour aller voir un monsieur de 93 ans qui ne s'était pas confessé depuis 1914. Donc ça faisait un bon moment, quand même. Il s'était brouillé avec un prêtre à l'époque. Il avait dit qu'il se convertirait sur son lit de mort. Alors je suis allé voir à l'hôpital, mais en ce moment-là, il dit « Non, non, mais je l'appellerai sur l'île morte. » Je suis désolé, vous avez quand même 93 ans, c'est vrai que je ne suis pas prophète, mais on peut penser que peut-être d'ici quelques années, vous allez mourir. « Oh oui, mais en ce moment-là, je vous appellerai. » Et puis plusieurs fois, j'étais allé, l'abbé Guillonin aussi, et puis on n'avait pas réussi à le convaincre. Et puis finalement, son épouse m'a appelé, son état s'était aggravé. Et puis, il y a eu de nouveau un bras de fer. Et puis, mais finalement, il a fini par... il me parlait d'années-lumière, il allait avec ses années-lumière. Oui, mais années-lumière. Il pouvait à peine s'exprimer, parce qu'il avait déjà la bouche de travers. Il était avec ses années-lumière. Mais finalement, après, il a fini par accepter. Donc, pour moi, c'était une très grande joie. Mais après, j'avais su par son épouse qu'il avait une personne qui était très sainte dans sa famille. Et son épouse, d'ailleurs, avait prié toute sa vie pour qu'il se convertisse. Alors, c'était très beau. Mais ceci étant, il faut reconnaître que ce sont des exceptions. Parce que, d'une façon générale, l'arbre tombe du côté où il penche. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne faut pas s'appuyer sur ces exceptions pour se dire qu'on aura cette chance un jour. Ensuite, dans l'apostolat, on peut constater encore, d'une autre manière, ça reprendra un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est une autre façon de l'exposer, qu'il y a encore deux attitudes extrêmes. Et cela, encore une fois, c'est vrai pour les prêtres, mais c'est vrai aussi pour les fidèles, puisque tout fidèle doit avoir ce souci de l'apostolat. Il y a ceux qui vivent repliés sur eux-mêmes, en vase clos, et qui se méfient systématiquement de ceux qui arrivent de l'extérieur. Très souvent, ce sont les gens qui sont le plus solides doctrinalement, qui ont parfois d'ailleurs des positions extrêmes sur le plan doctrinal, mais qui ensuite, dans la pratique, ont une espèce de zèle amer, qui fait qu'il y a une espèce d'effet de repoussoir. Donc au lieu d'attirer, ils ont tendance au contraire à rebuter. À force de vouloir être toujours le noyau pur et dur, eh bien on finit par ne plus être missionnaire et puis à ne plus attirer finalement les âmes à Dieu. Il y a au contraire ceux qui ont la tendance inverse. On veut être tout à tous, mais seulement, on dit bien, à force de ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit, on finit, au contact des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que nous, à perdre ses propres convictions. Et donc, on risque de glisser ainsi dans le libéralisme. Et là, c'était la tendance, par exemple, au niveau des prêtres, de ceux qui nous ont quittés au moment des sacres, c'est certain. Il est vrai que pour le prêtre, ça a toujours été, et c'est normal. La pêche au filet, c'est plus tentant que la pêche à la ligne. On voudrait ramener beaucoup d'âmes, et donc toucher le maximum d'âmes. Et on veut voir le résultat tout de suite, alors que très souvent, on constate que dans l'apostolat, si on veut vraiment faire beaucoup de bien aux âmes, c'est la pêche au filet qui marche, la pêche à la ligne, pardon, qui marche le mieux. À savoir qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience, un travail caché, qui n'est donc pas glorieux, mais pour arriver à faire progresser les âmes en profondeur. Et je pense que, c'est dans ma façon aussi d'organiser l'apostolat, je pense que les autres confrères de la fraternité qui sont dans les prieurés doivent agir de la même manière. Il y a aussi un ordre de priorité à respecter, savoir qu'on est quand même avant tout les prêtres de nos fidèles avant que d'être les prêtres des autres fidèles. Et ça peut être aussi une tentation pour le prêtre. C'est la parabole de la brebis perdue, mais aujourd'hui c'est pas la brebis perdue, c'est les 99 brebis qui sont perdues et la qu'une qui est restée au bercail. Alors s'il y en a qu'une qui est au bercail, on veut peut-être quand même s'occuper un petit peu d'elle, la pauvre, avant d'aller chercher les 99 autres. Alors il y a un ordre à respecter, et je pense que dans cet ordre à respecter, il est peut-être plus efficace de bien s'occuper des fidèles afin que les fidèles soient à leur tour missionnaires et puissent ramener d'autres âmes, que ce soit le prêtre lui-même qui délaisse ses fidèles pour aller s'occuper des autres âmes. Parce que s'il le fait, en ce moment-là, il risque de décevoir ses fidèles, parce qu'il ne pourra pas, en ce moment-là, s'occuper de ses propres fidèles. Donc il y aura une tension entre le prêtre et ses fidèles, ce qui fait que plus cette tension va augmenter, plus le prêtre sera tenté d'aller à l'extérieur, et puis plus, et puis finalement, moins il aura de résultats efficaces. Et dans plusieurs fidèles, même malheureusement qui nous ont quittés au moment des sacres, il y avait déjà du temps que c'était la fraternité cette tendance. Et cette tendance, on l'a, ils l'ont malheureusement conservée depuis. Donc je crois qu'il faut bien réfléchir, bien sûr que les prêtres doivent réfléchir à leur façon de toucher les âmes. Mais je pense que c'est ce que notre Seigneur veut. Puisque d'ailleurs dans la crise de l'Église, comme je vous l'expliquais au début, dans ce rapport entre pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction, puisque nous n'avons pas de juridiction... Le prêtre de paroisse, autrefois, c'est différent. Le prêtre de paroisse avait juridiction sur toute sa paroisse, en quelque sorte. Donc, par conséquent, s'il y avait une personne de sa paroisse catholique baptisée qui n'assistait pas à la messe, il pouvait très bien aller la voir en lui disant, en la secouant. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'a plus... la juridiction que nous avons n'est pas sur un territoire, mais uniquement sur les âmes qui viennent vers nous. Dans la mesure où vous venez vers nous, on a un devoir vis-à-vis de vous de répondre à vos besoins. Ce qui n'empêche pas ensuite le fait d'aller vers d'autres. Mais il y a un ordre de priorité. Mais en soi, c'est vrai que notre souci, est, nous avons les deux soucis. Nous avons et le souci de nous occuper de vous, mais le souci aussi de ramener d'autres. Soit directement, soit par vous. Et de fait, c'est ce qui arrive encore. Encore, il y a une famille qui intègre le prieuré là, depuis 3 semaines. C'est le cas. Cette personne a été travaillée par une autre fidèle du prieuré, et puis maintenant, eh bien, elle va venir régulièrement. Et c'est sûr que c'est le meilleur moyen. Parce que, comme nous, on ne peut pas être tout le temps auprès des nouveaux, et que les nouveaux exigent beaucoup plus de temps que les anciens, c'est normal. Eh bien, s'il y a un intermédiaire parmi nos fidèles, ça permet que ce fidèle fasse du très bon travail auprès de cette personne-là, même en notre absence. Et donc, ça ne mange pas tout notre temps. Ensuite, autre joie du prêtre, et c'est le jour d'en parler, c'est la main de Saint-Joseph sur nos œuvres. Ici, un livre peut-être ne suffirait pas pour raconter en détail non plus toute cette action de Saint-Joseph sur l'installation du prieuré. Plusieurs d'entre vous sont au courant de quelques anecdotes. Je vous en raconte une comme ça. On était rue de Marseille, j'avais décidé avec l'organiste de changer l'orgue du prieuré. Parce que l'autre était un petit peu usagé, et puis il n'y avait pas tous les jeux que l'on souhaitait. Je prends la décision un jour, je ne sais plus quel jour c'était, un matin donc, de changer l'orgue. On avait déjà décidé le choix de l'orgue. L'après-midi, je reçois un coup de téléphone d'une personne qui me dit... J'ai été volé par l'administration de 50 000 francs. J'ai promis que si je les récupérais, je les donnerais à l'église. Alors, j'habite... Alors, il m'a dit le nom de la paroisse. C'est une paroisse dans la région de Lyon. Donc, c'était quelqu'un qui ne pratiquait pas. Je suis allé voir... J'habite dans telle paroisse. Je suis allé voir le curé de la paroisse qui m'a dit, non, j'ai déjà... Parce qu'en l'occurrence, il voulait donner cet argent à l'église et que cet argent serve pour un orgue. Donc, il est parti voir le curé de la paroisse qui lui a dit, non, moi, j'ai déjà tout ce qu'il faut au niveau orgue. Je n'ai pas... Je n'ai besoin de rien. Alors, lui-même m'a dit, c'est donc sa expression textuelle, qu'il allait se faire cuire un œuf, je vais aller voir du côté de Monseigneur Lefebvre. Donc il me téléphone, le matin je décide de changer l'orgue, l'après-midi je reçois son coup de téléphone. Je lui dis, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir, de mettre 50 000 francs dans l'achat d'un orgue, puisque je vous offre mon 50 000 francs. Mais alors en même temps, il fallait que ce soit un orgue, et un orgue Allen, parce qu'il avait travaillé pendant longtemps au service du monsieur qui vend les orgues Allen à Lyon. Et il se trouve qu'à Écône, on a justement un orgue Allen, qui a été acheté à Lyon. Donc, lui ne connaissait pas la fraternité à Lyon, mais il a donc téléphoné à Écône, par l'orgue Allen, il a eu l'adresse d'Écône, Écône a donné celle de Lyon, il a téléphoné à Lyon, et c'est comme ça qu'on a pu acheter un orgue, c'est pour cela qu'on a un orgue Allen. Mais c'est un fait que je vous donne parce qu'il est marquant, mais je pourrais, encore une fois, je pourrais vous raconter des litanies pour voir la main de Saint-Joseph sur nos œuvres. C'était le cas pour le vitrail de Saint-François-Régis qui nous a été offert, le baptistère qui nous a été offert, le magnifique rétable que nous avons, et puis maintenant pour l'agrandissement de la chapelle à nouveau. À la dernière histoire, c'est l'histoire des bancs. Si vous voulez que je la raconte. Donc, nous cherchions des bancs pour l'agrandissement de la chapelle. Alors, je me suis renseigné, tout d'abord, pour faire des bancs. Donc, on a grandi de 80 places. Je me suis renseigné, et donc, une personne qui fait des bancs, et qui a fait des bancs, d'ailleurs, pour une chapelle traditionnelle en Bretagne, m'a dit que, en gros, ça serait revenu à 40 000 francs. 40 000 francs pour 80 places. Ça me paraissait quand même très onéreux. Je me suis dit, il faudrait peut-être trouver des bancs d'occasion. Alors, j'ai commencé par faire voir des antiquaires que je connais, des brocanteurs, en parler aux fidèles, et puis en parler également à un autre menuisier sur Lyon, qui aurait pu peut-être nous faire à un moindre prix ces bancs. Et ce menuisier, je lui explique que... si on trouvait des bancs d'occasion, certainement qu'on préférait les avoir pour éviter de mettre ce prix-là. Le samedi suivant, que je vois le menuisier, le menuisier voit une annonce dans le 69, en sachant que nous avions l'intention nous-mêmes, la semaine suivante, de mettre une annonce dans le 69, pour demander donc des bancs. Et il voit vend banc d'église, téléphone, donc numéro de téléphone. Alors, le mercredi suivant, je le vois, il me dit, voilà, il y a un numéro de téléphone, est-ce que vous voudriez téléphoner pour savoir dans qui vendent ces bancs, puis si ça vous intéresse. Alors, je n'ose pas le faire par moi-même, par discrétion, je demande à un fidèle de le faire. Le fidèle téléphone, et le lendemain, il me dit, vous savez qui est-ce qui vend des bancs? Je dis, ben non, c'est la paroisse Notre-Dame de Bellecombe. Alors, j'ai cherché des bancs de 2,50 m. En l'occurrence, ils font 2,57 m. Alors, pour 7 cm, c'est pas... Et alors, je voulais, avoir des bancs au moins pour 80 places. Finalement, il y en a au moins pour 120 places. Donc, c'est vraiment très bien. Au prix de 200 francs le banc en chêne de banc de 5 places, ça vaut quand même le coup. Alors, en fait, ce ne sont pas des bancs, ce sont des agenouilloirs, ce qui est d'ailleurs tout un symbole. Le fait que l'Église nous remette leur agenouilloir, puisque maintenant, eux prient debout et que nous, on continue à prier à genoux. Alors finalement, il manque les chaises, malgré tout, que je cherche toujours pour aller avec. Mais j'ai encore confiance en Saint-Joseph qui nous trouvera bien ces chaises. Alors sans doute que d'autres confrères... aurait pu vous raconter peut-être des épisodes plus croustillants. en fonction de leur vie de ministère. Il y en a qui ont certainement d'autres histoires à raconter. Mais je pense que ce petit survol vous montre un petit peu une partie cachée, au moins pour vous, de notre apostolat. Et c'est également dans, pour vous demander votre aide également, vos prières, pour que nous puissions continuer à cette œuvre pour vous, et puis également pour les autres âmes qui, j'espère, se joindront à vous. Voilà. Alors, merci de tout ce que vous faites. Et puis, si vous avez des questions à poser, je ne sais pas. C'est l'Église qui l'a déterminé. Pour éviter des abus, je pense, tout simplement. Je pense que c'est pour éviter des abus. Pour éviter que certains ne marient, ne confessent sans... Parce qu'il se peut, en fait, que des prêtres, on leur enlève le droit de confesser pour certaines circonstances. Donc, si malgré tout le sacrement restait valide en dehors de la juridiction, eh bien, en ce moment-là, ça entraînerait des désastres pour les âmes. Il y a des cas graves de prêtres qui sollicitent le pénitent en confession. Alors, en ce moment-là, et qui le sollicitent au péché en confession. Donc, en ce moment-là, on lui enlève le pouvoir de confesser. Et s'il veut quand même, en ce moment-là, faire du chantage auprès de l'autre personne en lui disant de pécher avec cette personne et ensuite de lui donner l'absolution, bien ça... Donc c'est un cas extrême que je prends. Mais après, le cas des mariages, c'est pareil. Si un prêtre marierait n'importe qui sans avoir... C'est pour éviter les abus, en fait. Au départ, c'était fait pour éviter les abus. Je pense... Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui se produit, puisque les prêtres ne confessent plus, malheureusement. Et quand... Comment ? Ils ne veulent plus marier non plus, c'est vrai. Ah, mais oui, j'ai eu encore un cas récent qui m'a été rapporté il y a 3 ou 4 jours, de personnes qui, en l'occurrence, c'était des personnes qui étaient... C'était peut-être même hier, mais je ne me souviens plus. Enfin, il n'y a pas 3 jours de ça. On m'a raconté que c'était des personnes qui divorçaient. Et en l'occurrence, donc, il y avait divorcé qui s'était remarié. Et l'une était... Oui, c'est ce matin qu'on m'a raconté. Donc l'une était célibataire et l'autre était mariée religieusement au départ. Et le conjoint est décédé, le conjoint légitime donc, hein, il est décédé. Et donc en ce moment-là, il est parti voir le prêtre pour régulariser sa situation. Et le prêtre lui a dit, mais pourquoi régulariser votre situation? Vous êtes très bien comme ça. Je vous avais raconté une fois peut-être ce qui s'était produit à Lyon. Ça c'est un cas maintenant personnel, c'est pas un cas rapporté, c'est un cas personnel. De jeunes gens, un jeune homme qui s'était marié... Non, une jeune fille plutôt. Une jeune fille qui s'est mariée avec un arabe. Donc, musulman, non baptisé. Donc, hein. Et puis, au bout d'un certain temps, elle se faisait battre par lui, ce qui paraît que c'est vraiment étonnant. Et par conséquent, donc, la vie n'était plus possible. Donc, ils se sont séparés. Et en ce moment-là, elle s'est retrouvée à la soupe populaire. À la soupe populaire, elle a rencontré un garçon. Donc elle-même et ce garçon sont venus me voir en me demandant de les marier. Alors, j'étais tout jeune prêtre à Lyon, première année de ministère. Alors je lui dis, bon, dans ces cas-là, il y a possibilité d'annuler le premier mariage, vu les circonstances, puisque c'était un vrai mariage qui n'est pas sacrement, puisque le mariage ne peut pas être sacrement pour l'un et pas pour l'autre. L'autre n'étant pas baptisé, il y a un vrai mariage et un mariage qui n'est pas sacrement. Et l'Église a pouvoir de casser un tel mariage. Dans le privilège de la foi, si on a l'intention de se marier avec quelqu'un de catholique, ce qui était le cas. Donc je recours à l'officialité de Lyon et je les invite donc à aller voir le père Clément, qui est décédé depuis, d'ailleurs, paix à son âme. vice-officiale. Et ces deux jeunes donc vont voir le prêtre, et puis donc leur explique la situation, et le prêtre dit oui, le pape a pouvoir de casser votre le premier mariage, et donc vous pourrez vous marier, mais seulement la procédure durera 6 mois. Et en attendant ces 6 mois, moi je leur avais dit, bien sûr, qu'ils ne devaient vivre, ils ne devaient pas avoir de rapport, c'est évident. Eh bien, le prêtre lui-même les a non seulement absous, mais au contraire, il les a encouragés en leur disant, puisqu'ils s'aimaient et que la procédure devait durer 6 mois, qu'ils n'avaient qu'à vivre ensemble, vice-officiel de Lyon. Alors après, on va nous dire, la fraternité, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, vous êtes en train de faire pour les mariages essayer de régler les problèmes par vous-même, mais quand on voit les conséquences que ça entraîne quand on recourt à l'église officielle. Alors heureusement encore, en l'occurrence, que ces deux jeunes avaient plus de conviction et donc sont venus me le dire, et puis bien sûr n'ont pas suivi le conseil de ce prêtre, mais c'est pour dire quand même les conséquences. Et puis finalement, donc après, la procédure a abouti, et donc entre temps ils se sont mariés, donc c'est un prêtre de la fraternité qui les a mariés. Et puis, ils ont 2 enfants, et puis ils vivent heureux. C'est pour la petite histoire. Donc maintenant, tout va bien. Et puis, entre-temps, je crois que l'arabe est décédé. L'histoire ne dit pas comment. Mais voilà. Ah, tout à fait, oui. Tout à fait. Ah, oh ben moi je sais pas, j'ai pas les. Là c'est du droit civil, c'est plus du droit ecclésiastique là. Peut-être qu'on. On peut encourir la prison, ça c'est sûr, mais j'ai pas la durée. Enfin d'abord, je n'ai jamais eu envie de. Eh bien on ne peut pas. On ne peut pas. C'est ce qu'il dit, c'est qu'on est passible de prison, mais je ne me rappelle plus la durée. Ouais. Ah, mais tout à fait, oui, bien sûr. C'est comme pour les enterrements aussi. On vérifie que la personne est bien morte. Non, mais c'est vrai, on n'a pas le droit normalement d'enterrer sans le papier, sans le certificat de décès, qui est de plus en plus difficile à obtenir maintenant. C'est vraiment. Il y a encore de nouvelles lois, parce qu'ils changent les lois tout le temps. Depuis quelques mois, c'est plus difficile. Bien, et bien voilà, donc on va terminer par la prière.